Tamani, voici nos informations en français.
Studio Tamani en direct de la maison de la presse du Bamako. Il est 18h, le journal avec Seydou Fomba, bonsoir. Les mines explosives artisanales font de plus en plus de victimes dans les rangs des forces armées maliennes et étrangères. En l'espace de 48 heures, 4 casques bleus et 6 soldats maliens ont été tués dans l'attaque de leur convoi avec ces engins explosifs improvisés. Selon les analystes, les djihadistes bénéficient probablement du soutien des ex-combattants du Daesh pour la fabrication de ces engins explosifs. Vive tension à Gao après l'assassinat d'un garde des eaux et forêts. Les jeunes de la ville en colère ont barricadé les passages hier soir en brûlant les pneus. Le conseil communal des jeunes a organisé une marche pacifique. Ces incidents font suite à une série d'affrontements et de menaces entre les groupes armés présents dans la ville. Dans un rapport rendu récemment public par la Banque mondiale sur la situation économique au Mali, l'institution financière s'alarme du niveau de la dette publique du pays. Les bailleurs de fonds internationaux se disent inquiets. Auditeurs solitaires, bienvenue. L'usage des mines artisanales est désormais devenu le mode d'action privilégié des forces djihadistes au Mali. Ces mines font de plus en plus de victimes dans les rangs des forces armées maliennes et étrangères. En l'espace de 48 heures, 4 casques bleus et 6 soldats maliens ont été tués dans l'attaque de leur convoi avec ces engins explosifs improvisés. Il y a un mois de cela à Boni, un véhicule des forêts a également sauté sur une mine faisant 26 morts, dont des femmes et des enfants. Explication à cet occasion.
Les mines artisanales sont devenues l'arme farouche des groupes terroristes. Dans le centre et le nord du pays, difficile de passer une journée sans qu'une mine n'explose ou n'ait fait des victimes. La dernière remonte à hier où un véhicule de la force onusienne a sauté sur un engin explosif improvisé sur l'axe Boni-Douanza dans la région de Mopti. Bilan 4 morts et 4 autres blessés parmi les casques bleus. Une autre attaque similaire a fait 6 morts dans la rang de l'armée malienne mardi à Djoura dans la région de Ségou. La semaine dernière, deux soldats français ont été tués par l'explosion d'une mine artisanale lors d'une opération de Barkhane sur l'axe Ansongo-Menaka. Encore ce matin, à Kidal, un convoi de l'amunissement est passé sur une mine sans faire de victimes. Les accidents de mines sont fréquents mais touchaient généralement les forces armées et pas la population. Après le drame causé par l'explosion des mines le 25 janvier dernier à Boni, faisant plus d'une vingtaine de civils tués, la piscose règne désormais dans les localités du centre et du nord du pays. Pour les djihadistes qui ne disposent pas de la même puissance de feu que les forces militaires, les mines sont un moyen de poursuivre une guerre asymétrique, déclarent des experts des questions sécuritaires. Selon un expert européen interrogé par l'AFP à Bamako, les djihadistes ont progressé dans le maniement des explosifs. Lorsqu'une mine coupe en deux comme du pain un véhicule, ce n'est plus une mine artisanale, affirme-t-il.
La prolifération des mines artisanales est une nouvelle stratégie de guerre pour les djihadistes, estiment de nombreux observateurs. Selon eux, ces djihadistes bénéficient probablement du soutien des ex-combattants de Daesh pour la fabrication des engins explosifs. Mamadou Guissé, professeur à l'université Juin par Assetou Kanté.
Depuis un certain temps, on est en train de procéder à la destruction des bases de djihadistes. Et ce qui fait qu'il y a un déficit d'approvisionnement. Aujourd'hui, étant amputés de leur principale source d'approvisionnement, ils sont obligés de recourir à des méthodes plus classiques, c'est-à-dire la fabrication d'armes spécifiques. On comprend que les djihadistes, disons, locaux, n'ont pas cette expertise, cette compétence de pouvoir procéder à la fabrication des armes. Et donc, il a fallu une expertise extérieure, effectivement, des djihadistes venus de Libye ou venus d'ailleurs, et qui ont acquis cette méthode à travers la lutte armée dans d'autres pays, tels qu'en Libye, tels que peut-être en Irak ou peut-être même en Syrie, parce qu'aujourd'hui, le conflit malien est internationalisé. Je pense que nous devons d'abord être assez vigilants, que la population locale participe à la dénonciation de quelques actes, de quelque nature qu'ils soient. C'est-à-dire quand vous voyez une personne habillée d'une certaine façon ou agissant d'une certaine façon ou acquérant un certain nombre de matériaux pouvant participer à la fabrication de ces armes.
Réagissez à ces informations sur la page Facebook de Studio Tamani et sur son compte Twitter. Vos réactions sont également les bienvenues sur le répondeur au 75 84 11 11 ou au 75 84 12 12. Vive tension à Gao après l'assassinat d'un garde de José Fourré. Les jeunes de la ville en colère ont barricadé hier soir les passages dans les rues en brûlant des pneus. Une marche pacifique a été organisée par le conseil communal des jeunes. Ces incidents font suite à une série d'affrontements et de menaces entre les groupes armés présents dans la ville. Deux autres personnes ayant reçu des balles se trouvent actuellement dans un état critique. Les manifestants réclament le désarmement des groupes armés et la justice pour les victimes. Abdul Karim Samba, chargé de communication au Conseil des jeunes de Gao, au micro de notre correspondant Ali Maïga.
Moi, c'est une marche qui a commencé depuis hier soir, suite à la mort, comme on appelle, d'un de nos frères gardes. Et a suivi cela aussi, deux de nos jeunes ont reçu des balles qui se trouvent dans des états très critiques actuellement au niveau de l'hôpital. Et tout ça là, c'est résumé du fait qu'il y a trois jours de cela où ils ont ramassé des corps des Arabes au niveau des tabous de la commune. Les Arabes ont montré leur mécontentement en demandant que justice soit faite. Après ça, avant-hier soir aussi, au niveau de Barissadi, de la commune Sonia Liber, le gourmand, des hommes armés sur des motos ont attaqué encore ce village-là, où ils ont fait, comme on appelle, des plus de 5 blessés. On parle de morts. Donc, du coup, il y a eu un mouvement d'ensemble. On est sorti aujourd'hui pour la cause-là, pour essayer de montrer notre mécontentement, mais demander aussi que justice soit faite. De faire sortir les groupes armés qui sont en ville, de les désarmer. De les désarmer, ils ne peuvent pas vivre avec les populations.
Dans un rapport qu'elle vient de publier sur la situation économique au Mali, la Banque mondiale s'alarme du niveau élevé de la dette publique du pays. Les bailleurs de fonds internationaux se disent inquiets par rapport au niveau de cette dette, eu égard des capacités financières du pays. Les points avec Moumine Sendebou.
La dette du Mali a augmenté entre 2013 et 2016 selon la Banque mondiale. Elle a atteint 98% du produit intérieur brut PIB en 2016, alerte l'organisation. Elle souligne que cette situation est due aux emprunts extérieurs répétitifs opérés par les autorités du pays pour prendre en charge l'investissement public dans les infrastructures. Toutefois, la dette publique devrait diminuer de 5 points et atteindre 93% du PIB, estime le rapport présenté aux autorités maliennes. L'institution financière note une reprise timide de la croissance économique du Mali grâce à l'amélioration de la consommation privée et à la performance des secteurs de l'agriculture, du commerce et des industries manufacturières. Cependant, la Banque mondiale souligne que cette croissance aurait pu mieux se situer si ces secteurs n'étaient pas confrontés à la réduction des investissements publics, la baisse de la production minière. Une situation qui freine l'élan de la croissance qui demeure en dessous de celle observée sur le continent africain, précise le rapport.
0,22 mètres, c'est le niveau qu'affiche actuellement le fleuve Niger à Koulikoro. Selon certains habitants de la ville, l'eau du fleuve n'a jamais connu une telle baisse depuis plus de 40 ans. Quant à la direction régionale de l'hydraulique, elle explique que cette situation impacte sérieusement le niveau des eaux souterraines et l'approvisionnement en eau potable de la ville de Koulikoro. L'utilisation des produits chimiques, dont le mercure et les cyanures sur les sites d'orpaillage, affecte les cours d'eau et nuit à la santé des populations riveraines. Cette déclaration a été faite ce matin par le conseil d'administration du laboratoire national des eaux. Les responsables du laboratoire demandent au gouvernement de prendre des mesures d'interdiction du dragage et l'utilisation des produits chimiques pour prévenir les maladies dans les zones d'orpaillage. Al-Moussa Fafoufana, directeur du laboratoire national des eaux, au micro de Marwa Egal.
Au niveau de nos ressources en eau de surface, on constate qu'il y a le dragage de ces cours d'eau. Et non seulement ça impacte sur la qualité, mais aussi la quantité. Puisqu'il y aura un détarage vraiment de cours d'eau, la qualité vraiment est affectée. Puisqu'ils utilisent aussi les produits chimiques comme le cyanure et le mercure. Vraiment, c'est un problème auquel il faut qu'on se focalise pour trouver une solution rapidement. À mon point de vue, c'est d'interdire le dragage et d'interdire l'utilisation des produits toxiques tels que le cyanure et le mercure dans l'exploitation de l'or au niveau de l'orpaillage traditionnel. Et sur la population, ça joue puisque la population s'alimente à partir des ressources en eau. Donc si l'eau est affectée, ça affecte vraiment la population. Ça a un impact sur la population en termes d'agriculture, en termes de ressources en eau même. Et ça va créer des inondations et ça va créer beaucoup de choses. Et les zones qui sont affectées par ces flots, c'est surtout au niveau des zones minières.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Actualité régionale à Tombouctou, un homme a donné hier un coup fatal à un enfant âgé d'une dizaine d'années dans le quartier d'Amabangou. Selon des témoins, la victime aurait commis un vol dans une famille. Le coupable s'est livré lui-même à la police. Un commerçant a été victime d'un braquage à domicile le mardi dernier à Ouattagouna, dans le secteur d'Ansongo. Selon des sources locales, il aurait été violemment battu par ses ravisseurs avant d'être dépouillé de tous ses biens. Grièvement blessé, la victime a été évacuée à l'hôpital d'Ansongo pour des soins. Les élèves de Ségou ont suivi le mouvement de grève de 48 heures initié hier par leurs camarades de Bamako. Ils visent à rendre hommage aux étudiants qui ont perdu la vie sur la route de Kabbala, selon les responsables de l'association LAEM. La campagne exceptionnelle de vaccination contre la rougeole a pris fin aujourd'hui dans les aires de santé d'Al-Moustarad dans la région de Gao. Cette campagne de deux jours organisée par la Croix-Rouge malienne a concerné plus de 800 personnes. 6 cas de rougeole avaient été signalés la semaine dernière à Al-Moustarad. Studio Tamani 18h10, nous vous rappelons que la révision des listes électorales se poursuit jusqu'au 6 mars prochain. Vous pouvez donc aller vous faire enregistrer dans les centres de recensement. Le Grand Dialogue, votre émission débat de tous les soirs, c'est à suivre dans un instant avec Fatmata Togula. Bonsoir. Sur quoi porte le débat de ce soir?
Bonsoir Fomba. Ce soir, nous allons parler d'insécurité dans le pays et nos invités sur ce plateau, Abdoul Karim Samba, membre du